En plus, mon œil directeur est à gauche. Alors, politiquement parlant, c'est pas mauvais, mais.
Bon, allez. Donc, le premier. La première manière d'aborder l'interculturel a été le fait de missionnaires. Hein? Et de missionnaires qui travaillaient plus particulièrement en Asie. En Asie, les Indes en particulier, mais aussi un peu vers la Chine, mais essentiellement d'abord vers les Indes. Je reviendrai tout à l'heure à propos de mon chanel là-dessus. Alors, la deuxième est philosophique. Un certain nombre de ces intellectuels missionnaires ont trouvé un gourou avec un philosophe absolument exceptionnel, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, qui est une sorte de gourou, qui s'appelle Raimundo Panikkar. Raimundo Panikkar est un métis indo-catalan qui était professeur de philosophie à Berkeley. Et très clairement, P-A-N-I-2-K-A-R. P-A-N-I-2-K-A-R. Raimundo Panikkar. C'est vraiment, dans tout ce que je vais vous dire, c'est le rock. Alors, moi, il m'a, je dirais, un peu défrisé quand je l'ai connu, parce que les gourous ne me plaisent pas. Hein. J'aime pas avoir des gens qui cherchent par une présence, une forme transmettre un certain nombre d'idées. Mais Raimundo Panikkar a écrit sur les problématiques d'interculturalité, des questions. Vraiment, il a introduit des notions extrêmement rectrices qui ont été reprises par exemple par nous en anthropologie du droit. Les notions de diatopisme, dialogie et diamutisme sont empruntées directement à Panikkar. Donc la dimension philosophique est très importante. La dimension anthropologique dans le devenir ensuite. Parce que après avoir exploré les religions et les philosophies indiennes en particulier, avec tout un travail sur le dharma, etc., enfin vraiment des choses intéressantes, Robert Vachon, dont je vais vous parler tout à l'heure, va commencer à travailler avec les Premières Nations du Canada, et en particulier avec les Mohawks, Premières Nations du Canada, les autochtones. C'est tous les Indiens, tous les Métis, les Inuits, etc. Enfin, toutes les populations du Canada qui étaient antérieures à l'arrivée des populations européennes. Ah, ils viennent de Sibérie.
C'est les locaux.
Ce sont les Indiens. Hein,
les Indiens du Canada.
Les Indiens. Hein. Ouais. Et en fait, ils sont arrivés par la Sibérie, le droit de Bering, à un moment où la glaciation permettait de passer par là, et donc ils sont. Alors, donc, la dimension anthropologique elle va être très importante pour justement la connaissance d'un certain nombre de sociétés qui avaient mauvaise réputation. Au niveau des anthropologues canadiens, québécois, en particulier les Mohawks, qui étaient considérés comme les ennemis héréditaires des Hurons, des Cotérettes, des Algonquins, etc. Donc, le travail anthropologique Robert Vachon a été reconnu comme étant un excellent anthropologue et il a publié des travaux sur la mythologie des Mohawks qui sont vraiment extrêmement intéressants. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore toute une dimension de recherche linguistique et sémiologique. À partir du moment où on travaille sur des modes d'expression autres, il faut approfondir leur compréhension. Et leur compréhension n'est pas simplement une vocation d'anthropologue, c'est une vocation beaucoup plus générale de tous ceux qui s'intéresse à la communication et à la communication politique en particulier, parce que la communication politique et le politique va être finalement le dernier grand ressort, souvent masqué mais absolument fondamental, de l'interculturel. Et nous, qui travaillons sur ces questions-là en France, à Paris, nous ne devons jamais nous masquer le fait que ce dont nous parlons, c'est toujours du politique. Toujours. Hein. Nous sommes toujours dans le... C'est toujours du politique.
Du politique,
d'ailleurs. Ah, du politique, c'est vrai. Il y a toujours du politique derrière. Voilà, alors, maintenant, on va rentrer dans la présentation, la découverte de l'Institut interculturel de Montréal, qui au départ, le centre Montchanin. Montchanin est un missionnaire canadien, québécois, des années 30, qui a été travaillé en Inde et qui a ouvert un ashram là-bas. Et donc, il s'est indianisé, très très fortement. Et un de ses disciples, un peu, pas complètement directement, qui s'appelle Jacques Langlais, qui est un autre missionnaire, a fondé en 1963 le Centre Montchanin pour les études interculturelles à Montréal. Et donc, Jacques Langlois est aussi un indianiste et il va être, à partir de 1969, rejoint par un autre missionnaire, mais d'un ordre religieux différent, mais ça c'est sans importance, qui est Robert Vachon, et c'est Robert Vachon qui va être en fait au cœur de toute l'aventure dont je vais vous parler dans les minutes qui vont suivre, parce qu'il devient le directeur du centre Montchanin à partir de 1976. Et Robert Vachon souhaite ouvrir l'interculturalité, pas simplement à des populations ou à des problèmes asiatiques, mais aussi à l'Afrique. Et c'est comme ça qu'en 1974, à Berkeley, il découvre un de mes articles écrit en français, mais l'oralité juridique dans les sociétés africaines. Et l'aventure commence là. Hein, l'aventure commence là, c'est-à-dire on commence à échanger. Et quelques années après, j'arrive à Montréal pour commencer à travailler avec le Centre Montchanin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une manière assez intéressante, ces trois personnes, Montchanin, Langlais et Vachon, en fait, ils vont opérer une sorte de contre-mission. Au lieu de prétendre imposer à d'autres des conceptions qui sont les leurs, ils cherchent plutôt à aller chercher chez les autres des conceptions qu'ils vont introduire dans la société canadienne et dans la société québécoise. Donc, d'une certaine façon, et c'est un mouvement assez rare, en particulier pour l'époque, et ce mouvement-là, tout de suite, il les rend extrêmement sympathiques et tout à fait passionnants. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la personnalité de Robert Vachon va ouvrir un cosmopolitisme très réel, et que même à travers l'idée d'un institut interculturel de Montréal, il y a une idée de cosmopolitisme qui va se dégager. Et donc, cosmos, hein, c'est la totalité du globe, hein, c'est une ouverture totale à la fois aux populations et l'ensemble des populations qui vivent sur le sol québécois ou canadien, mais aussi à l'ensemble des cultures, quelles qu'elles soient. Et par exemple, Robert va passer des heures à m'interroger sur la culture picarde. Parce que quand j'ai travaillé avec lui, Anamur et Raimundo Panucar sur les droits de l'homme, on m'avait demandé de parler comme africaniste. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dit non, je ne peux pas parler comme africaniste. Si je dois parler de quelque chose, c'est de ma propre culture et ma culture picarde. Donc, on s'est mis comme ça à travailler un certain nombre de questions tout à fait centrales. Et ceci, donc, va beaucoup jouer sur l'écho que l'Institut interculturel de Montréal va avoir sur la scène internationale. que ce soit aux États-Unis, mais aussi d'autres types de contextes. En Inde, très fortement, il y a une des directrices de l'institut qui s'appelle Kalpana Das, qui vient d'Inde, qui est une Bengali, et qui va avoir un rôle extrêmement important dans ce contexte-là. Et donc, voilà, un cosmopolitisme. Bon, alors, quels sont les outils qui sont privilégiés par l'Institut interculturel de Montréal, Centre Montchanin ? D'abord, essentiellement, c'est ce qu'on appelle des séminaires. C'est un terme emprunté à l'allemand. C'est pas exactement un séminaire, c'est un stage d'immersion dans une culture et qui dure généralement un week-end de 2 ou 3 jours et dans lequel on passe par la cuisine, la musique, les contes, tout un ensemble de formes d'expression caractéristiques, voire typiques. Des sociétés, des cultures dont on parle. Et moi, j'ai participé à un de ces séminaires sur les cultures africaines. Ben, on a passé une bonne partie de notre temps à faire du tambour.
Ah, à quoi ?
Du tambour.
Du tambour.
On avait un yaya qui est dans le psa, dans sa circule yaya. Et donc, au départ, un ingénieur chimiste malien qui s'est établi à Montréal et est devenu un tambour, je sais pas quoi, quasiment professionnel. Et c'était tout à fait. Donc, on entre dans les cultures par ces modes d'expression les plus naturels possibles. Le plus naturel possible, ça dépend bien entendu de tous ceux qui vont être les témoins de ces formes d'expression et qui vont réussir à faire partager la réalité sans trop de déformation, mais du rapportement, toujours un peu de déformation. Alors, après, donc, le centre se fait connaître par des publications. Ça, c'est une publication qui est des années 2000. Les derniers numéros sont encore un peu plus sophistiqués. Ce qui est intéressant, c'est que cette revue est publiée en français, mais en anglais. Que chaque numéro a les deux versants, français, anglais, constamment. Ça, naturellement, facilite énormément la diffusion. Il y avait aussi les vendredis de Montchanin. Quasiment chaque semaine, le vendredi soir, il y a table d'hôtes, si vous voulez, au centre. Chacun a apporté, on peut emporter son manger, comme on dit, peut apporter ce qu'il avait envie et partager. J'ai assisté aussi à 2 ou 3 de ces soirées. C'était des moments de très grande spontanéité qui permettent, d'aller au-delà des constructions, des personnalités, des rôles, etc. pour rentrer dans le vécu de l'ensemble des acteurs. Bon, je passe sur un certain nombre de choses. Ce qui est donc parmi les positions fondamentales de l'Institut interculturel de Montréal, j'en ai relevé 3 principales. La première, c'est une position critique par rapport au modernisme et par rapport, disons, plus spatiale, à la modernité occidentale. Et il y a une critique des conceptions du développement tel qu'il est imposé aux sociétés du Sud, on dirait maintenant, par le Nord, qui a bénéficié de la force des armes de la colonisation pour imposer sa culture. Et donc, il y a une dénonciation extrêmement radicale et de tout ce qui relève de cette idée de l'unicité d'un modèle. On développe, on reprend plus exactement là, l'idée non pas de travailler sur l'univers, mais sur des plurivers. Une expression qui a été inventée par des auteurs mexicains, mais qui est très fortement reprise et qui renvoie à l'idée de pluralité. Donc, la pluralité, c'est la deuxième idée fondamentale. Le pluralisme est le cadre de l'ensemble de la démarche. Et ce pluralisme, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Robert Vachon et ceux qui ont travaillé avec lui veulent que ce pluralisme soit d'abord l'effet d'une révolution interne, d'une remise à zéro de ces compteurs conceptuels, avant d'être la connaissance de l'autre par projection dans sa culture. Donc, et je pense que il faut retenir au moins de cette expérience cette leçon que, avant de pouvoir s'interroger sur le sens de l'autre et ses apports, il faut d'abord être bien dans sa peau, hein, être bien en équilibre et trouver l'ensemble de ces repères qui font que on n'est pas à côté de sa propre personnalité en la regardant d'une manière un peu biaisée. Hein. Donc il y a cette révolution intérieure, si vous voulez, qui est une des marques de la démarche, qui naturellement est là. De l'ordre de la vocation de chacun, et il n'y a aucune ressource qui soit susceptible d'apporter qu'un truc pour entrer dans une révolution intérieure. Mais tant qu'on n'a pas fait cette révolution intérieure, on est en partie pris par des œillères qui ne vous permettent pas de poser les questions telles qu'on pouvait les espérer. Hein. Donc ce pluralisme ouais, est vraiment très important.
Pas la différence, comment est-ce qu'on va changer ?
Mais c'est un jeu un peu de dialectique, je dirais, mais eux parlent de dialogie, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver une mise en perspective constante entre le souci de comprendre l'autre et le souci de l'introduire dans ses propres cadres référentiels pour se construire progressivement un système d'interprétation à la mesure de la richesse et de la complexité des phénomènes dans lesquels on rentre. Et ça ne peut être qu'un travail continu. Moi, je vous dirais qu'en ayant suivi ce type d'expérience, j'ai l'impression qu'il m'a fallu parfois 30 ans pour arriver à déboucher sur un certain nombre de choses. Non, c'est les deux exigences. Mais très souvent, on croit qu'on peut oublier de se découvrir soi-même et qu'on peut aller vers l'autre d'une manière un peu béate. Alors, la voie qu'il présente, si vous voulez, troisième point, la voie qu'il présente, c'est une voie entre le monolinguisme, le monoculturalisme, le monos, c'est-à-dire le un seul, et l'interculturalisme au sens politique, dont je vais reparler tout à l'heure. Donc, Robert Vachon et l'Institut interculturel cherchent une voie moyenne qui, tout en dénonçant les prétentions de l'Occident à imposer sa culture, en même temps cherche à intégrer de la manière la plus harmonieuse possible les divers apports, et des apports qui en fait les situent dans une perspective qui est la plus délicate, pour moi un peu redoutable, c'est-à-dire une perspective d'ordre ontologique. Et c'est l'interpellation de son soi profond, de son être profond, qui va être en fait la clé, la possibilité, donc un approfondissement de ce que j'avais dit au départ. Et cette voie ontologique, elle est, chez Robert Vachon, exprimée de plusieurs façons. Alors là, dans mes mélanges, il y a un texte de Robert Vachon qui exprime, il y a des textes qui sont assez courts, de manière extrêmement claire, l'ensemble de ces défis. Alors, pour vous dire, parce que là nous avons des anthropologues du droit devant moi, Robert était en concurrence avec le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris pour imposer sa conception du pluralisme juridique. C'est toujours un petit peu comme ça, en discussion et en blague, mais aussi. Robert prétend en fait qu'il faut dépasser même la notion de pluralisme juridique pour arriver à quelque chose qui est le mystère de la vie, le mystère de la réalité. Il dit qu'au-delà des concepts, il faut entrer dans la réalité, et que seule la réalité est à même de rendre compte de l'ensemble des exigences de l'interculturalité. Les mots sont un peu piégés, les mots sont un peu délicats. On pourra peut-être revenir tout à l'heure, j'ai quelques phrases que je pourrais citer si vous voulez. Je pense, si vous voulez, que cette exigence-là est extrêmement importante, mais en même temps, puisqu'elle relève de l'ontologie, elle n'est pas... Bon, alors, je vais aller plus vite pour la deuxième partie. Les questions que pose cette expérience de l'Institut interculturel, qui a donc qui a été fermé il y a 2 ans, faute d'argent, faute de personnel, faute de reprise par des personnalités suffisamment attractives pour qu'elles aient un rôle attractif sans tomber dans le gourou. On avait proposé à Christophe Ebéard de prendre ça, et il a bien compris que c'était pas possible, quoi. Les questions au débat, c'est, je l'ai cité un petit peu déjà tout à l'heure, pourquoi faut-il passer du suffixe T, interculturalité, à isme, interculturalisme, hein? Donc il y a des raisons, il y a des raisons sémantiques bien sûr, mais il y a des raisons politiques qui sont beaucoup plus. Alors, un autre de mes amis qui s'appelle Bob White, qui est un Américain qui est maintenant professeur d'anthropologie à Montréal, a écrit un bouquin dont j'ai tiré un certain nombre de feuilles, qui permettent d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Alors, il y a un certain nombre de remarques qui sont faites comme ça, un certain nombre de risques. Le premier risque, c'est de passer du descriptif, voilà comment sont les autres, comment ils sont composés, au normatif. Je crois que ça, c'est vraiment une des premières questions que l'on va constamment rencontrer sur le problème de l'interculturalité. Donc, normatif ou prescriptif. Nous, dans nos expériences au laboratoire en interculturalité, quand on travaillait au départ, on se différenciait de ce qui se passait avec Toby Nathan, par exemple, on était justement obligé de sortir de ce prescriptif normatif qu'imposait Toby Nathan dans le contexte dans lequel nous travaillions. Deuxième risque, c'est le risque de se contenter dans l'interculturalité de ce que plusieurs auteurs, et moi aussi d'ailleurs, appellent l'effet mosaïque. On dit très souvent que Montréal est une mosaïque. Une mosaïque, c'est la représentation d'un dessin où chaque élément, chaque morceau de pierre, reste indépendant l'un par rapport à l'autre. Donc, une mosaïque a un effet d'ensemble très, très, très passionnant, mais quand on regarde de plus près, il y a une pierre rouge, puis une pierre bleue, puis une pierre blanche, puis etc. Mais tout ça reste séparé les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que les problèmes de différenciation risquent de devenir de plus en plus marqués pour aller jusqu'à des phénomènes de ghettoisation. Les Montréalais en sont assez sensibles. Moi, quand je me promenais avec des copains, on me disait, là, dans cette rue-là, on entre chez les Italiens. Et puis, 2 rues après, on entre chez... etc. Cet effet mosaïque, c'est... risque de rendre l'interculturel plus placebo qu'autre chose. Couvrir un petit peu les questions, mais en fait, pas véritablement. Un troisième risque que nous connaissons aussi très bien en France, c'est le risque de l'expertise interculturelle, qui est susceptible de pouvoir parler au nom d'une culture. Et tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que c'est un vrai problème quand on m'a demandé de parler des cultures africaines. dans un certain contexte, je peux le faire, mais dans le contexte dans lequel c'était l'interculturel qui était en question, hein, et pas simplement une connaissance académique, mais bon, non, je ne suis pas africain, je ne peux pas parler en africain. Je peux parler en picard. Là, je prends mes risques. Hein. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que l'expertise? Ça pose naturellement des problèmes qui sont au Québec particulièrement sensibles, hein, et qui font que, en particulier dans le monde académique, on a maintenant des contraintes de développement. Donc moi, je viens de participer à un gros programme de recherche sur moi, les revendications territoriales des Premières Nations. Nous étions inscrits dans des contraintes administrativo-bureaucratiques, hein, par rapport au travail avec les autochtones, etc., qui font que, effectivement, hein, le problème de l'expertise est un problème qui devient absolument crucial.
Mais qu'est-ce que vous faites de la distance? Qu'est-ce que vous faites de la distance? C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, si vous parlez de je ne sais où en Afrique, vous avez une certaine distance par rapport à un Africain, à l'ingénieur malien par exemple, et est-ce que cette distance ne vous valorise, mais vous ne donne pas un poids.
Si. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une position radicalement qui disqualifierait ceux qui ne sont pas membres de la culture, si vous voulez. Moi, en tant qu'observateur des Africains, j'apporte des tas de choses que les Africains ne sont pas capables soit de voir, soit de pouvoir exprimer. Mais en même temps, il y a certaines choses dans lesquelles je ne peux pas rentrer jusqu'au bout parce qu'il y a des dimensions si implicitement liées à des savoir-être et savoir-penser qui sont endoculturées, qui sont saisies au sein de la mer, moi je dis parfois, hein, et qui font que, si vous voulez, ce mystère-là, je peux peut-être le reconstruire, mais je ne peux pas en prétendre être l'interprète authentique.
Non, mais
bon.
Vous faites de leur poser des questions sans faire
avancer
tout le monde.
D'accord,
oui.
Bon,
je vais aborder ça.
Bon, un autre risque est le risque du pluralisme. Parce qu'on risque très souvent, sous l'apparence du pluralisme, de pratiquer du dualisme et qui est en fait une forme de monisme. Ça a l'air assez curieux, mais en fait, il y a un mécanisme trépigeant, je ne voudrais pas trop rentrer là-dedans, parce que Bénédicte connaît certains de mes travaux sur l'englobement du contraire, des tas de choses comme ça. Ce sont des choses qui sont un peu abstraites, hein, et qui sont secondaires par rapport à ici. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le pluralisme ne se construit pas de manière simple, et très souvent, ce que nous appelons pluralisme, c'est du dualisme. Hein, ouais, parce qu'on ramène à deux, et finalement, à deux pour imposer sa propre conception. Et ça, je vais y revenir tout de suite. Alors, avant, il y a encore autre chose, un autre risque, c'est le risque de l'instrumentalisation de la culture de l'autre. En réduisant, bien entendu, les savoir-être et savoir-penser à simplement quelques traits culturels totalement caricaturaux et qui vont faire que l'Africain, c'est l'Asiatique, c'est ça, etc. Bon, et à ce moment-là, on retombe dans les schémas les plus racistes. Et ça va très, très vite et c'est très facile, mais ce risque de l'instrumentalisation, nous le connaissons, on en a souvent beaucoup discuté. Alors, une des dernières questions qu'on peut se poser, c'est dans l'interculturalité, qu'est-ce qu'on partage? La notion de partage est devenant une des notions clés dans le renouvellement, disons, des démarches anthropologiques ces dernières années, en particulier sur tout ce qui tourne autour du commun et l'idée de communauté. Hein, ce sont vraiment des questions qui deviennent... dans l'interculturalité, qu'est-ce qu'on partage? Une langue, certainement, mais cette langue, c'est le français, et elle a des tendances à être monopolisantes, voire monopolistiques. une culture culturelle, je dirais, hein, une culture avec l'ensemble de ses artefacts, mais qui et jusqu'où partage-t-on des éléments, un bon roman, une pièce de théâtre, etc. Jusqu'où tout cela va-t-il, hein? Une autre dimension, c'est une vision de la démocratie. Et là, ça recoupe toutes les questions qu'on a commencé, surtout l'année dernière, à examiner ensemble, hein, sur la démocratie participative, représentative, etc. Vous vous souvenez qu'on a eu des discussions extrêmement intéressantes. Hein. Et derrière aussi, une autre question qui est un état d'esprit. Un état d'esprit qui est basé sur la conciliation, l'équilibre et la réciprocité. Dans ces trois mots-clés, disons, du discours de Robert Vachon à l'Institut interculturel de Montréal. Alors, derrière, eh ben, il y a cet enjeu politique de l'interculturalisme. Donc, Robert Vachon n'a jamais voulu entrer dans l'arène politique. Et donc, même si ses propos étaient repris, et en particulier, il y a eu, si vous vous souvenez de l'affaire de Kanawaki, bon, les Mohawks qui à un moment donné ont bloqué le pont, etc. Bon, et moi j'étais là-bas à ce moment-là, et bon. La dimension politique donc est restée toujours en arrière-plan, mais derrière il y a une question qui n'est plus propre vraiment à l'Institut interculturel de Montréal, mais à toute démarche de type, ethnoculturel ou interculturel, c'est la relation entre le moi d'observateur, le soi de la culture dominante et l'autre avec lequel on va travailler. C'est ce que moi j'appelais le triangle des Bermudes à mes étudiants. Hein, comment réussir à tenir une démarche dans laquelle on puisse à la fois rendre compte de l'autre dans le langage de l'un sans que le langage de l'un absorbe l'identité ou l'originalité de l'autre, ou que nous soyons capables d'aller jusqu'au bout des questions que soit l'autre, soit... Il m'aurait fallu un tableau noir, hein, faire un triangle, hein, pour vous remettre en position. Mais imaginez, hein, le moi de l'observateur, hein, le soi, hein, de la culture dominante, bon, francophone là, mais anglophone aussi, hein, et l'autre, toute autre, hein, diversité dans ces diversités. Hein. Et donc, comment faire en sorte de pouvoir avoir un recul suffisant par rapport à l'ensemble de ces contraintes pour naviguer entre ces trois pôles en ouvrant toujours tout un ensemble de possibilités. Et là, on peut dire que donc, la société québécoise posée à Robert Vachon, à l'Institut interculturel de Montréal, des problèmes très spécifiques. Parce que, comme le disent plusieurs auteurs du bouquin que j'ai utilisé, la société québécoise est prise entre le regret d'un passé rêvé et l'angoisse d'un futur, le risque d'absorption de cette communauté dans l'ensemble nord-américain. Nécessairement, toute la question de l'interculturel se pose par rapport à ce regret de quelque chose et cette angoisse du futur. Et je terminerai ma réflexion là-dessus. Cette question québécoise, c'est une question française. Hein, complètement. Il y a 8 jours, j'étais à un colloque au Palais de Justice de Paris sur le départ des jeunes en djihad. Pour comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes français, pas toujours musulmans même d'ailleurs, hein, partaient en djihad, Monsieur Benslama avait mis en évidence l'importance de la perte du mythe du califat, aboli en 1924, qui était une sorte de clé posée de manière symbolique au-dessus de la société et permettant par cet effet de clé de voûte d'assurer un équilibre de l'ensemble pour tout un ensemble d'acteurs, membres de la communauté, de la Oumma, hein, la communauté islamique. Et donc, depuis que tout un ensemble de populations musulmanes ont perdu la clé du califat, elles ont perdu l'équivalent de ce que nous attribuons au rôle de l'État. Si nous on décidait l'abolition de l'État, par exemple, nous serions très certainement totalement déconcertés pendant toute une période. Et donc, il se trouve comme ça que, en fait, il y a tout un ensemble de mondes imaginaires et de mondes symboliques qui sont à l'œuvre. Et on a discuté justement à propos d'intermédiation culturelle en séance sur la possibilité de faire émerger de nouveaux mondes symboliques dans lesquels les jeunes pourraient se retrouver. Mais en tout cas, d'une manière générale, et je termine vraiment là-dessus, ces mondes imaginaires, hein, ces dimensions de l'imagination sont absolument fondamentales comme arrière-fond à l'ensemble de ces réflexions sur l'interculturalité. Robert Vachon voulait développer ce qu'il appelait le grand mythe de la réalité. Mais nous avons à réfléchir aussi à cette dimension. Hein. Nos sociétés, toute société est fondée sur des mythes. Hein. Toute société. Hein. Et nous sommes en appauvrissement de mythes progressivement. Et même les mythes, liés à la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité, hein, les mythes que nous croyons avoir construits sont en train de se filocher, hein, ils sont encore là, mais ils sont en train de se filocher. La fraternité, hein, nous n'arrivons plus à vraiment, même malgré Charlie, on n'arrive plus à vraiment pouvoir en parler. La question donc de l'interculturalité au Québec, ce problème de la démocratie, de la laïcité, de la capacité à fournir des mythes à la hauteur de la richesse et de la complexité des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et pour moi, c'est un de nos devoirs, une de nos obligations, une de nos responsabilités de travailler à cette émergence de nouveaux cadres dans lesquels les réflexions et les propositions puissent prendre racine.
Est-ce que cette mythe, cette résurgence ou cette nécessité de mythe, de résurgence de mythe fondateur, hein, est-ce que il ne faut pas tenir compte de l'intergénérationnalité, c'est-à-dire se passer une, deux ou trois? Parce que l'émigrant qui arrive, lui, va scotomiser ça, comme le juif après la guerre qui va scotomiser le camp. Et puis c'est comme par hasard. À partir de 1980 qu'il y a eu l'islamisme qui a commencé à émerger, etc. Est-ce que le facteur intergénérationnel n'est pas une condition sine qua non?
Tout à fait. Et ce dont on parlait d'ailleurs vendredi dernier au palais de justice, lorsque là il y a très très généralement un trou, si vous voulez, entre une ou deux générations, qui fait qu'effectivement les mémoires ne sont plus actualisées.
C'est ce qu'on voit en Afrique avec Lumumba et Sankara. Comment il s'appelle au Burkina là,
Oui, Sankara.
Sankara, merci.
Oui, Sankara.
Qui sont redevenus des mythes, mais à la deuxième, troisième génération. Ou Sékou, même, si vous voulez.
Tu as dit réciprocité, sérénité là, dans l'état d'esprit. Tu as dit conciliation, réciprocité, il y avait un troisième point.
Oui.
Tu peux te pousser un petit peu, là, mais ça peut te passer à Gabriel.
Équilibre.
C'est bon.
Équilibre,
peut-être. Conciliation, équilibre et réciprocité.
Peut-être, attends, si vous pouvez peut-être vous décaler un petit peu. Voilà, ça tu peux t'asseoir.
Moi, je fais discret, j'arrive en retard, je fais bazar.
Le monsieur est arrivé à la rue Malheur, donc il n'y a plus de papier.
Allons voir s'il n'y a pas des numéros qui s'appellent
pas. Oui, il est arrivé. Je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, donc t'as fini ton...
Oui, j'ai fini.
Bien sûr.
Un détail pour les jeunes qui sont...
Alors ce que je vous demande, voilà, c'est que vous parliez dans le micro. Parce que...
Pour les jeunes qui sont appelés... qui sont non-musulmans, qui sont appelés au djihadisme, ils sont recrutés dans les booms de jeunes de 12-13 ans, et il y a des adultes de 22 ans qui viennent pour faire leur pub. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache quand nos enfants ou nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants vont aller en boom.
Partie de la prévention.
Non mais ce que j'évoquais ne va pas résoudre tous les problèmes, hein. C'est évident. Mais à un certain moment, il y a l'expression de tout un ensemble d'angoisses qui sont liées à des parcours individuels qui n'ont pas été ni cadrés ni réellement enrichis et qui font que il manque des possibilités d'avoir des discours d'autorité qui vont... Parce que ce sont d'abord des problèmes d'autorité, de discours d'autorité qui construisent le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et l'autorité, c'est l'autoritas, c'est ce qui conduit quelqu'un à réaliser quelque chose.
C'est comme ça que les jeunes gens de 22 ans vont pouvoir sur ces gosses de 12-13 ans. Parce qu'ils apportent un équivalent de colonne d'abord.
Ouais. Sur la notion de réalité, d'accord, moi je m'interroge sur le sens, la notion de réalité. Alors la réalité, c'est laquelle? C'est la mienne, c'est la vôtre, c'est la réalité individuelle, de l'anthologie, c'est la réalité collective de la société. C'est un mot, moi, que je trouve difficile quand on parle de réalité. En santé, voilà, quand on parle de l'autre, on dit c'est sa réalité. On peut lui donner du sens quand on est dans un parcours de...
Pour la voir telle qu'elle est.
Donc, interculturalité, réalité...
Mais je vous ai fait comprendre ma réticence intellectuelle. En arrivant là, j'ai dit je ne partage plus, si vous voulez. Hein? Alors que j'ai partagé beaucoup de choses auparavant, à ce niveau-là, parce que comme vous, je suis effectivement.
Ça mérite de poser.
Mais ce qu'il y a derrière, c'est quand même intéressant. Alors vous avez compris que je suis quand même un sacré intellectuel. Et c'est la remise en question d'intellectuel qui est l'enjeu, si vous voulez. Et moi, ça j'apprécie, si vous voulez, sans avoir envie de m'auto-censurer, etc. Mais je trouve que c'est extrêmement important de se méfier du sens des mots, du poids des formules et de l'apparence d'explication qui finalement... derrière des mots commodes, voile le rapport au réel et la prise en compte de toutes les contradictions, de toutes les tensions, des violences faites aux gens, aux minorités, aux femmes, etc., qui ont des questions dans la société québécoise. C'est terriblement tendu, ça, même si on n'en parle pas trop, mais j'aurais dit. J'étais encore en 2012 à Montréal lors de la révolution des étudiants, la révolution orange. Là aussi, derrière, c'est pour il y avait, on sentait maintenant, mais on était là, on sentait là des tensions, des discriminations terribles. Hein. Dominique.
J'aimerais savoir si tu penses qu'un mythe peut se partager dans l'interculturel ou entre plusieurs plusieurs histoires, plusieurs... voilà. Le mythe, est-ce qu'il peut être, tu disais, un mythe fondateur d'une société pluriculturelle? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un mythe, ça se partage? Est-ce que ça se construit en commun et est-ce que ça se partage?
Merci Dominique, une excellente question, terriblement piégeante. Et c'est oui et c'est non. Hein? C'est non parce que mythos, ça veut dire ce qui est caché. Et donc, quand on parle du mythe, on révèle quelque chose que les différentes sciences de l'au-delà s'efforcent de garder pour les initiés, pour ceux qui sont à l'intérieur du groupe hein, qui va pouvoir bénéficier. Donc, en principe, un mythe ne devrait pas se dire ou se dire au-delà d'un certain cadre. Mais en même temps, sans mythe, il n'y a pas de projet commun. Alors, il y a des milliers de manières de formuler des mythes. On n'est pas obligé d'avoir le grand mythe de Fondation Dogon sur lequel le Griot a écrit Dieu d'eau, etc. Il rentrait là dans des constructions absolument extraordinairement complexes. Hein. On peut avoir en fait des explications qui relèvent du conte ou même parfois trouvées dans des chansons, etc. Hein. Enfin, mon ami Yaya expliquait que chez les Minyanka du Mali, c'est par les chansons hein, et la musique qu'on transmet les mythes. Hein, donc, bien sûr, tout le monde ne le sait pas, mais c'est comme ça. Alors, jusqu'où le mythe propre à un groupe peut-il hein, trouver des... Alors, il y a tout un ensemble de correspondances de groupe en groupe qui font que on retrouve les mêmes éléments dans différentes sociétés. Alors, comme anthropologue, moi je vous prends Lévi-Strauss, hein, et vous avez toute la littérature de Claude Lévi-Strauss qui explique comment des mythes que l'on trouve un tel petit groupe d'Amazonie se retrouvent aussi à l'autre bout du monde quasiment, etc. Hein. Donc il y a des éléments de structure, si vous voulez, qui se retrouvent dans l'ensemble des sociétés. Mais il y a aussi la possibilité, et c'est ce qui est en train de se faire, la grande aventure que nous vivons actuellement, qu'on appelle la mondialisation, l'extension progressive à l'échelle du monde de différents mythes qui sont en fait les uns qui moi me révulsent. C'est la marchandisation à tout va. Hein. La commodification, hein, donc la marchandisation à tout va, et ça, moi ça me... Ça me hein, marchandisation, hein, ça me révulse si vous voulez, hein, mais ça c'est un mythe, hein, et vous avez Disney qui va vous... Hein, et puis Harry Potter, et puis etc., qui sont autant de manières de diffuser hein, un certain type de mythe à travers le monde. Puis à côté de ça, vous avez d'autres mythes qui sont en train d'émerger. Moi, d'autres mythes qui sont en train d'émerger. Moi, je travaille sur un, c'est le mythe des communs. Des communs.
Communs.
Des communs.
Communs, ils sont en anglais. Communs, ce qui est commun. Ce qui est commun, ce qui est partagé.
Voilà. Lui, nous formons un commun. Nous sommes un groupe avec une richesse, elle est intellectuelle, et un minimum de règles. La première règle, c'est que vous acceptez que je parle et vous écoutez. Et quand vous posez une question, les autres attendent, etc. Donc on a un minimum de règles implicites, mais en faisant cela, nous constituons un commun. Donc un commun, c'est pas, mettons, ma montre, si vous voulez, simplement une richesse, hein, quoi, matériel, c'est faire commun. Hein. Et c'est une évolution extraordinaire qui est en train de traverser le monde hein, et qui est donc qui va être peut-être un des éléments les plus peut-être un peu sophistiqués, mais pas tellement parce que c'est terriblement pratico-pratique. La réalité que vous évoquiez tout à l'heure, elle est là si vous voulez. Hein, bon, hein. Donc on est en ce moment en train aussi d'inventer ça. Et,
un livre qui vient sortir là-dessus d'ailleurs, et notamment sur les jardins de l'ombre, qui n'appartiennent à personne. C'est une question de la propriété.
tous les gens qui vont l'entretiennent, c'est avec les quartiers qui vont dans ce jardin, en prennent soin. Ouais. Il n'appartient à personne, c'est tout le monde en profite. Une phase de
communisme dans le monde. Il y a eu passé à France
Culture, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas. Peut-être
Dardo
Laval.
Oui,
non,
c'est...
il y a celui
d'Ardo
Laval, en
effet.
Oui.
C'est un
économiste.
Ah oui. C'est pas celui qui a écrit le bien commun.
Alors, repenser les biens communs, c'est Saint-Victor. J'ai oublié dedans, moi. C'est Saint-Victor et je ne sais plus qui. Et il y a... Ah, Ostrom, alors. Elinor Ostrom. Elinor Ostrom.
Donc voilà, il a écrit juste...
Ouais, 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 ouais.
C'est lui qui bon. Citait cet exemple des jardins anglais.
Ouais. Effectivement.
Et comment ça avait disparu avec l'enfance.
Mais peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, on pourrait organiser une séance sur les communs. Parce que en ce moment, mais vous ne pouvez pas savoir. Je ne peux pas vous inviter lundi, mais parce que c'est un peu restreint, mais on présente la première petite encyclopédie à l'échelle internationale, en anglais, sur, ça s'appelle Patterns of Commoning. Donc, modèle de mise en commun, si vous voulez, hein, de faire commun. Hein, plus exactement. Donc il y a une quarantaine d'auteurs qui sont réunis des quatre coins du monde et qui font le premier bilan de leurs travaux sur les communs.
C'est des communs ou c'est des communs?
On pourrait jouer. On pourrait
c'est ce qu'on a en compris. Hein.
Alors, oui, eh bien, justement, c'est pas du tout comme, hein, c'est comme plusieurs.
Alors c'est commun.
Commun, tout à fait.
Ah oui, c'est commun, c'est commun. Comme dans une maison, il y a des communs. Mais nous, on avait compris comme un.
Désolé.
Désolé. Non, c'est au contraire.
Alors, il y a Parents, c'est Saint-Victor. Parents, c'est Saint-Victor sur repenser les communs. Et puis, il y a le bouquin de David Bollier qui s'appelle La Renaissance des communs. Et ça, c'est du Mozart. C'est du Mozart.
Parce que Dardo Laval, il faut que je travaille beaucoup.
C'est un énorme bouquin, 700 pages. J'ai écouté Christian Laval vendredi dernier. C'est absolument passionnant. Il faut vraiment rentrer là-dedans. C'est dur. Par contre, David Bollier, c'est 170 pages. BO2LIER. Et c'est aux éditions. Vous allez m'aider, mademoiselle, pour la Fondation pour le progrès de l'homme. Charles-Édouard,
je vois ce que tu veux dire. Mais tu fais Fondation pour le progrès de l'homme, tu trouveras.
La Fondation pour le progrès de l'homme.
Oui.
Bollier. La Renaissance des communs. Et c'est. Et c'est personnellement, c'est ce que je préfère actuellement, si vous voulez. Hein. C'est 170 pages. Il y a 3 pages de résumé bien clair à la fin, avec tous les mots-clés qui y sont. C'est, alors, il vous situe par rapport à Hardin, etc. Il remet bien en question tous les trucs.
Alors, bon. Je vais vous dire. Oui, David Bollier, on trouve à la FNAC, 14 euros. Oui. Il va bien bouger.
Bollier.
Sur Rocher.
Quoi?
La ville de Josepé, sur Salut Bollier, la famille d'Américain,
Donc on fait finalement la destruction des mythes des années 70 finalement, avec ce genre de famille. On a tellement détruit les mythes autochtones, c'est-à-dire les immigrés qui sont arrivés, qui devaient s'adapter au moule français, républicain, etc. N'ayant plus de mythes, et bien une génération après, il y a une résurgence des anciens mythes. avec un côté destructeur.
Et qui était attendu par ceux d'entre nous qui ont travaillé au début de l'année 80.
C'est ça, c'est...
Sur la justice des mineurs, que nous sommes aperçus que ces jeunes étaient déculturés.
C'est le début de l'histoire de la déculturée.
Pas acculturés, déculturés, on leur avait retiré une partie de la
Donc après, il y a eu un coup et puis ça s'est
rendu.